Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul aujourd'hui, avec moi toute la clique habituelle, Miguel, Rémi et Vincent. Comment allez-vous les mecs?
Bah super, ça va trop bien.
Ça va nickel, Rémi il a passé une super nuit apparemment je crois.
On va voir si ces 3 heures de sommeil vont le remettre les idées en place. Ou est-ce qu'il va blasphème, puisqu'aujourd'hui nous allons nous pencher sur un nouveau coach Demol, et cette fois ce sera sur Pat Riley. Petite histoire du coup de Pat Riley. Donc lui il a été joueur de 67 à 76, il est passé par les San Diego Rockets, les Lakers et Phoenix. C'était un joueur de rotation, hein. Il a fait son pic de saison à 11 points de moyenne aux Lakers sur la saison 75. Mais il y a quand même une petite bagouze en tant que joueur en 72. Donc, aux côtés de Jerry West, Guy Goodrich et autres Wilt Chamberlain, l'équipe était assez sympa. Donc voilà, c'était un peu la petite carrière de joueur. Maintenant, en tant que coach, il a été 3 années en tant qu'assistant aux Lakers. Et il a été nommé head coach en 82 au bout de 11 matchs. Ensuite, donc il reste 9 saisons à la tête des Lakers de 82 à 90. Il y a 4 bacs de champion avec donc 4 finales de suite sur ses 4 premières saisons. Champion en 82 face à Philly, défaite lors des finales 83 face aux Sixers et défaite également en 84 face aux Celtics.
Mais plus dur celle-là.
Eh oui, c'est vrai. Mais en 85, Pat Riley et les Lakers se prennent leur revanche et s'imposent donc lors des finales 85. 2 saisons plus tard, ça retourne en finale en 87 face aux Celtics et ça gagne. Évidemment, en 88, c'est les Bad Boys, ça gagne aussi. Soit le nouveau back-to-back, le premier back-to-back depuis les Celtics de 68-67. Donc c'était une belle performance. Ensuite, donc, il part en Floride à Miami de 96 à 2003.
Avant, il passe à New York.
Attends, j'ai loupé ma ligne, évidemment. Ouais.
De 90 à 95, il est à New York, il s'occupe des Knicks de Patrick.
Non, de 92.
De 92.
Il fait une pause d'un
entre
an.
De 90 à 92, il redevient commentateur. Et du coup, en 92, il devient le coach des Knicks de avec Pat Ewing. Ouais. Et donc, il n'y a qu'une seule finale en 94, perdue face aux Rockets. Ensuite, du coup, il part en Floride, à Miami, comme je le disais tout à l'heure, de 96 à 2003.
L'année 2004, il fait une petite pause, mais c'est juste en 2008.
Il fait une pause de 2 ans.
Ouais, il laisse le coaching à Stan Van Gundy. Puis en 2006, il dit que Stan Van Gundy a besoin, déclaration officielle, a besoin de profiter de sa famille. Et du coup, il reprend le head coach. Ça, c'est un GM de qualité. Pas besoin de se justifier. On dirait les justifications de Miguel quand on parle d'arguments basket.
Il a tout compris.
Et du coup, il reprend le head coach en 2006 et est finalement champion. Avec notamment Dwayne Wade, Shaq, etc. Et il termine sa carrière de coach en 2008 et devient donc GM pour la franchise. Et il nomme Eric Spoelstra au coaching. Voilà.
Une belle carrière.
Très belle carrière.
C'est une carrière de joueur moyenne. Il a réussi à faire 10 saisons. Il est le suppléant de Jerry West. Une bague, bon, c'est bien. Mais par contre, quel coach? Oh là là.
Ah ouais, c'est clair.
All time.
Nommé dans les top 10 coach all time, ou 15, le top 15, je crois.
Oh, top 5.
Les deux.
Il n'y a pas de classement dans les 15. Il n'y a pas de classement.
Là, je ne l'ai pas comme ça, mais je pense que dans le top 5, il y est. Hein.
Moi, je pense qu'il y est de mon côté.
Clairement.
Bon, c'est pas le débat aujourd'hui. On part du coup sur le coach des Malls. 5 joueurs à choisir parmi. Des mentions que Rémi va nous citer tout de suite après avoir éternué dans son micro.
En mention, moi j'ai nommé du Bob McAdoo qui a été MVP dans le milieu des années 70. Il vient rejoindre les Lakers dans les années 80, mais bon voilà, il est sur une fin de carrière. Il y a un petit peu de scoring, mais ça suffit pas pour être dans un top 5.
Ouais.
On a du Tim Hardaway côté Miami, pas confondre avec Tim Hardaway Jr.
Mm-hmm. Ouais, c'est le papa.
Mais...
Hein.
Comment?
C'est le papa de Tim Hardaway Jr.
Ouais.
Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Hein, mais...
ouais, bon,
il y en a un qui a été meilleur. Ouais. Mais n'empêche que le joueur était quand même assez correct. Mais bon, encore une fois, ça ne suffit pas du tout pour entrer dans un top 5. Hein. Il a fait plusieurs franchises avec quelques mecs quand même. Peu de package, quoi.
Mais Tim Hardaway, on parle quand même de lui. Le crossover, c'est un des gros artisans du crossover.
Oui.
Non mais du coup, c'est pour ça que Tim Hardaway, il est mentionné.
C'est un bon meneur, ça je suis d'accord. Voilà, je le mentionne.
Un joueur, clairement c'est pas un...
On a du Jason Williams également, mais pareil, c'est en fin de carrière. Ça rentre pas. On a du Gary Payton qui arrive à Miami, qui vient choper la bagouze en 2006. Ouais, mais c'est un Gary Payton de fin de carrière aussi. Ouais. C'est un Gary Payton qui vient suppléer Dwayne Wade. Il est sur le banc, quoi. Donc bon, ça compte pas. On a qui d'autre ? J'ai noté Eddie Jones également.
Ouais, ouais.
Bon, un bon scoreur, mais voilà, j'ai pas réussi à le faire rentrer non plus. Et c'est tout ce que j'ai noté. Ah si, j'ai une Byron Scott aussi. Voilà.
Byron Scott, ouais, John Starks, il y a du monde. Hein.
Ouais, John Starks, ça se mentionne aussi.
Ouais, John Starks, ça peut se mentionner.
John Starks,
ça se mentionne. J'avais pas noté, mais ça se mentionne. Ouais, ouais, ouais.
Xavier McDaniels aussi.
On peut ouais. Ajouter.
Voilà un peu de, donc tous les joueurs qui sont passés par lui, mais maintenant on va rentrer
dans qui rentrent pas dans notre top 5.
Eh oui.
Je sais pas citer tout le monde. Hein, parce que...
Je pense qu'on s'est pas spoilé, mais.
De mon côté, c'est bon. Je sais pas pour vous.
Moi, j'ai pas été spoilé non.
On est tous bons, je pense.
Allez, on rentre.
Je pense qu'on a les 5 mêmes. Ah non, je rigole.
Non.
On rentre en 5e position, les gars. Et vas-y, Miguel, c'est à toi de commencer.
Ah ouais. Je commence, je suis dans la sauce déjà.
C'est ça.
Direct.
Je t'ai senti te cacher derrière ta cam là.
Vas-y. Ouais, mais parce que en fait, je suis en train de. Mais en fait, moi, j'avais mes 5, mais l'ordre, c'est juste. C'est impossible à faire un ordre là-dessus. Donc, j'espère que je ne suis pas tout seul. En 5, j'ai Patrick Ewing.
Ah, ok. Je l'ai plus haut.
Moi aussi, je l'ai plus haut.
Mais tous plus haut. Moi,
vas-y. En vrai, je pense que je sais pourquoi tu le mets aussi bas. Enfin,
ouais, bref, en fait, je le mets aussi bas pour une seule raison, en fait, les gars, c'est qu'il n'y a pas la bague.
Ouais. Non, mais c'est quand même un argument qui compte.
Non, c'est un argument.
Ouais,
parce que...
c'est un argument, ça tient en route, je suis d'accord, mais je sais pas.
Ouais, parce que Pat Riley, en fait, c'est le gars, il a énormément gagné la cette NBA et tous les joueurs que j'ai mis en haut, spoiler, ils ont tous au moins une bague, donc avec lui et sans lui aussi. Donc, en fait, c'est ça qui m'a fait trancher, mais en vrai, c'est pour ça que ça me fait mal de le mettre 5e, c'est horrible.
Après, Patrick Ewing, avec les équipes de branques qu'il a eues.
Ouais, c'est ça. Il a pas de bague, mais en même temps, le mec est pas aidé, quoi.
C'est clair.
C'est sûr.
Alors que dans les autres qu'on va citer plus tard.
Ouah, l'équipe, il y avait les effectifs de malade.
Ou que nous, on va citer maintenant. Bah, en fait, les effectifs étaient tellement complets que voilà.
Ouais. Bon. Ah, ça aide, forcément.
Vas-y, moi, j'enchaîne. Vas-y, j'enchaîne là. Moi, j'ai Alonzo Mourning en 5. Du coup, je le laisse en 5 pour le même argument. Il a pas de bague. Un pivot ultra dominant fin des années 90, début 2000 côté Miami, pour ceux qui connaissent pas. Malheureusement, il a pas pu faire suffisamment de saisons parce qu'en fait, maladie rénale, il a dû écourter sa saison. Mais en fait, il y a une relation avec Pat Riley qui est ouf. Alonzo Mourning commence à Charlotte. En 95, quand Pat Riley il arrive à Miami, du côté d'Alonzo Mourning, ça se passait pas très bien dans le vestiaire, il voulait partir. Pat Riley lui dit « Écoute, viens chez moi, on va bien s'entendre, tu te ramènes. » Ça fait un gros carton, ça va en playoff tout le temps. Bon, ça bute face à des équipes comme Chicago. Je pense que dans les années 90, c'est pas les seuls à buter contre Chicago. Ouais, pas leur en vouloir. Et derrière, donc en 2003, il se barre, il est malade, il fait une année de pause. Et lorsque Pat Riley revient à Miami en 2004-2005, il rappelle Alonzo Mourning pour dire « Allez, viens, reviens ici, c'est ta franchise. Là, on a un vrai effectif, on va gagner une bague, je veux que tu en gagnes une avec nous. » Il a pas un rôle majeur. Là, c'est moyenne, clairement, dans la production, c'est clairement diminué. Ouais. Mais il vient choper sa bague en fin de carrière. Il est double défenseur de l'année en 99 et en 2000 avec des saisons à quasiment 4 comptes par match. C'est énorme. Moi, je pouvais pas le sortir. J'ai hésité avec d'autres, mais j'ai préféré le rentrer parce que c'est mérité. J'espère que vous l'avez aussi.
Je crois que nous, on sait un mec que t'as pas mis dans ton 5 et du coup, ça.
Ok. Bah ouais, je sais bien.
Vincent, vas-y.
Bah du coup, je crois que le mec que Rémi a sorti de son top 5, je crois que moi je l'ai en 5.
Vas-y, spoil pas, toi.
Je pense que je l'ai aussi.
Bah, je l'ai en 5. Moi, en 5, j'ai James Worthy.
Okay. Ouais, pareil.
Ouais, en effet. Du coup, pour moi, il n'a pas pu rentrer. J'ai préféré faire rentrer Alonzo Mourning.
Alors, moi, en fait, j'ai vraiment hésité. J'ai même hésité à le mettre plus haut, en fait. Mais ça me fait chier de mec. Parce qu'on va pas se mentir que moi, j'ai des mecs des Lakers aussi dans mon 5. Et en fait, j'avais pas envie de mettre les mecs des Lakers devant parce qu'en disant, ils ont 4 titres majeurs des Lakers.
Hein.
Bah, c'est ça, en fait. Donc, ça me faisait un peu chier aussi. Et en fait, du coup, par défaut, un petit peu, j'ai mis James Worthy en 5. Okay. Mais le mec, vas-y, parce que au niveau statistiquement, il est un peu plus faible que ceux que j'ai mis au-dessus. Que en fait, quand il arrive, lui, il arrive sous Pat Riley. En fait, c'est son premier coach, Pat Riley en NBA. Il arrive.
Ils arrivent en même temps. Enfin, Pat Riley, il est nommé head coach au moment où Worthy il arrive.
Worthy, il est rookie. Ouais. Non, l'année d'après.
L'année d'après, ok.
L'année d'après. Et donc, du coup, voilà, ils font 8 saisons ensemble. Donc, c'est pareil, ça. Ah, les mecs, ils se connaissaient, ils ont pris quatre bagues ensemble. Il y en a une que je pense que Pat Riley peut dire merci à James Worthy.
Big game, James.
Il y a voilà, des chances.
Il nous a sorti un match incroyable alors qu'il y avait du monde quand même à côté de lui. Hein, mais c'est lui qui est sorti de sa boîte au bon moment sur un Game 7 en 87 où il nous sort un 36-16-10. Bonjour. Bonjour, je m'appelle James. Donc voilà, moi je l'ai mis en 5. Après, c'était compliqué à classer en fait. C'était vraiment compliqué à classer. Je l'ai mis en 5, j'aurais pu le mettre en 2, j'aurais pu le mettre en...
Ah, pas en 1, peut-être. T'es un fou.
Wow, au final, quand tu regardes, ça serait pas non plus un scandale, quoi.
Je l'ai mis 5 aussi, dans le sens où, malgré tout, ça restait quand même que la troisième option de l'équipe.
Aussi. Et du coup, là, moi, c'est un peu pareil, genre.
Et malgré, tu vois, ces moyennes de points, James Worthy aux Lakers sous Pat Riley, c'est 18 points, 5 rebonds, 3 passes. C'est ultra correct, tu vois. Ça... Mais il y a deux mecs au-dessus qui, je pense... sont un... tu peux pas leur passer devant, tu vois. Donc pour moi, il reste cinquième. Et encore, je vous expliquerai un truc tout à l'heure. J'ai failli faire une dinguerie, mais du coup, il reste cinquième.
Ok, moi, j'ai pas pu le faire rentrer. Je m'en expliquerai au fur et à mesure, mais je préférais faire rentrer Alonso Mourning. Et très clairement, les quatre premiers, bah, en fait, pour moi, ils étaient indéclassables. En fait.
Mais je vois.
C'est compliqué de les manger.
Ouais, Miguel.
Moi, j'enchaîne avec mon 4, du coup, parce que c'est James Worthy.
Okay.
Pour compléter.
Mais j'aime sortir devant Patrick Ewing. Oh, putain.
Je sais, mais il n'y a que du blasphème. De toute façon, dans cette émission, les gars.
Oh là là.
Non, mais je m'explique aussi. C'est
vous
vrai.
Avez
en fait,
pas la même coéquipier. Hein.
En fait, mais c'est ça, en fait. C'est que le gars, il arrive en 82 en tant que top 1 draft, alors que les Lakers sont déjà au top, en fait. Merci la loterie qui n'existait pas. Et bah, c'est sûr, le gars, il arrive dans une équipe, elle est déjà complète. Et. Ouais. Mais il a réussi quand même à montrer qu'il était essentiel à l'équipe. Il gagne 3 titres, quoi.
Il gagne trois titres.
Et dont un où on peut vraiment le remercier, comme l'a dit Vincent. Il fait un putain de game. Et non, moi, il fallait que je le mette. Après, c'est vrai que j'aurais pu mettre Patrick Ewing devant. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de titre aussi, moi, que j'apporte beaucoup d'impact. Et voilà.
Ça te le fait passer devant. Ok, ok.
Mais de peu. Hein.
De peu. Vincent, qui as-tu en 4?
Moi, en 4, du coup, j'ai ce qu'a cité Migos tout à l'heure. Moi, j'ai Patrick Ewing en 4.
Mm-hmm.
Je ne l'ai pas mis plus haut parce que pas de bague. En fait, c'est juste ça. Le fait qu'il n'ait pas de bague, j'ai du mal à le monter un peu plus haut. Après, il a des moyennes plus que correctes. Hein, parce que sur les 4 ans où il est avec Pat Riley, c'est 24 points par match, 12 rebonds, 2 contre ennemis. Hein. Donc voilà, c'est quand même des stats vraiment corrects. Le mec était leader de son équipe. C'est clairement lui le franchise player. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a quand même été chercher une finale NBA en jouant pas avec des superstars, quoi. Donc voilà pourquoi je le mets 4. Après, je pense que c'est pareil. J'aurais pu le monter un peu. J'ai hésité à le monter d'une place, mais j'ai quand même laissé celui de devant.
Très bien. Rémi.
Non, vas-y, Gus.
Eh ben moi j'ai Karim Abdul-Jabbar en 4.
Oh yes, let's go, putain, je pensais que j'allais blasphème, moi aussi mec.
Alors, je vous explique.
Je pensais que j'allais faire gueuler.
Je vous explique tout de suite un truc. J'ai failli ne pas mettre Karim Abdul-Jabbar dans mon 5, mettre Alonso Mourning.
Ah non, par contre là t'es un grand malade. Là par contre t'es un grand malade.
Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de dire? Non, j'ai quand même
mis Karim tous les jours, mais par contre il est resté qu'en 4, il a pas pu aller plus haut.
Moi c'était du principe où malgré tout. Parce que la mentalité du Heat, de la franchise entière du Heat a été créée au moment où Alonso Mourning a été associé à Pat Riley, en fait. La défense de Miami telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce truc hargneux, etc., ça a été créé par eux deux, en fait. Et juste, c'est ultra identitaire. Et donc,
Patrick
dans la
Ewing
durée...
à New York. Hein.
Non, mais je parle de Miami, moi.
Ouais, mais tu dis l'identité défensive de Pat Riley. Il y a les Knicks, à Miami.
Donc, pour moi, c'est un truc qui perdure tellement depuis hyper longtemps que c'est ultra marquant. Et moi, je pense, enfin, j'ai essayé de faire rentrer Alonso Mourning dans mon 5 et au final, non, j'ai pas réussi.
Moi, je l'ai rentré.
Et du coup, il y a Karim, bah, parce que Karim, tout simplement, voilà, hein, on connaît l'histoire, 19 points, 7 rebonds, il y a du contre, des moves indéfendables, des paniers ultra importants. Enfin bon, on connaît le gars, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de discussion et il y a 4 titres en fait. Voilà.
Ouais. Je renchéris un peu parce que du coup je l'ai laissé en 4. Karim, en vrai, c'est une des plus grosses légendes de l'NBA, c'est incontestable. Mais il n'a pas pu grappiller plus haut parce que c'est la question que les gens vont se poser. Parce qu'en fait, même s'il y a 4 titres, ça reste quand même les 8 dernières saisons de Karim.
Il est dans la phase descendante.
De sa carrière. Il est dans sa phase descendante, ouais. Donc c'est 19 points, 7 rebonds, 3 passes et 1,5 bloc. C'est très correct, hein. Ça reste du Karim Abdul-Jabbar. Mais en fait, plus ça va, plus ça descend. La vraie star dans l'équipe, on va pas se mentir, c'est Magic Johnson.
Oui.
Le vrai Showtime, c'est Magic. Donc Karim, il est là, il est pour. Et heureusement, parce que clairement, sans lui, ça serait peut-être pas allé si haut. Mais c'est que 4. Voilà.
Très bien. Très bien.
Est-ce que moi, je peux enchérir du coup avec mon 3 parce
Tu l'as
que
en
moi,
3
Je l'ai en 3, Karim, ouais.
Ça transite de partout, c'est trop beau.
Je l'ai en 3, Karim. Et en fait, moi, c'est vrai que là, dans mes notes, en gros, là, j'ai mis pas dans son prime.
Bah ouais, voilà.
Et en fait, moi, c'est ça. J'ai failli mettre Patrick Ewing devant pour ça. J'ai quand même pas mis parce que bon, il y a quand même 4 titres de champion. Enfin, les 8 années où il est avec Pat Riley, 8 All-Star. Enfin, bref, il joue de 34 à 41 ans avec Pat Riley et il lui met quand même 19 points par match. Enfin, bref, donc le mec est quand même un monstre du basket.
C'est clair.
Il a quand même le move, un des moves les plus indéfendables de la NBA. Enfin, bref.
Ouais,
et le vrai. Scoreur le plus prolifique de l'histoire.
Pour le moment.
Bientôt plus, mais voilà. Et voilà, je pense qu'on est obligé de le mettre dans un top 5 coaché par Pat Riley. On est obligé de mettre Karim Abdul-Jabbar.
Je pense que sans l'expérience de ce mec-là, Pat Riley n'aurait pas été ce qu'il était, tu vois.
Ouais, peut-être. Donc voilà, moi je l'ai en 3, Karim Abdul-Jabbar.
Miguel.
Même vous en avez déjà bien parlé.
Moi aussi, je
l'ai en 3 aussi.
Il est troisième de mon côté et ouais, enfin, comme vous avez dit, hein, c'est que sous Pat Riley, bah, il avait 34 ans première saison, ouais. Donc c'est sûr que c'était pas le Karim qu'on avait eu au Bucks ou au début des Lakers, mais bah, ça reste une des plus grosses légendes de la NBA et forcément obligé de le mettre. Et même moi, je l'avais 4 à un moment dans mon classement, ça a pas mal bougé, mais c'est vrai que en tout cas pour moi, les deux premiers. Ils sont bien à leur place.
Ouais, bah tu vois, je reviens sur ça, mais en fait, le fait comme dit Vincent, quand dans tes notes, tu cries pas à son prime, tout simplement, ça, pour moi, ça rentre pas dans le top 3 parce qu'il y a 3 joueurs au-dessus qui étaient dans leur prime et qui ont fait de grandes choses malgré tout. Du coup, moi, en 3ème place, j'ai Patrick Ewing.
Pareil, Gus.
Putain,
je pense qu'on a le même classement à part le 5ème poste.
Donc, Pat Ewing, hein, 24 points, 9 rebonds, 3 comptes de moyenne sous Pat Riley. Des saisons à ne plus savoir quoi en faire. Et surtout, il emmène les Knicks en finale face aux Rockets qui sont trop forts. Mais avec une équipe de bras cassés, en fait.
Le gars. Mon lieutenant, c'est John Starks. Il a même pas été drafté par l'NBA. Il a été récupéré en J-League, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement.
Et en plus de ça, tu te retrouves, du coup, Pat Ewing. Le truc, c'est que t'es en pile dans cette période où Chicago a eu son dernier titre. Et du coup, t'as 2 saisons dans l'histoire. On sait qu'il y a eu 2 saisons où il fallait qu'ils soient là et ils ont été en finale. Malheureusement, t'as l'équipe des Rockets qui est ultra complète, beaucoup plus armée en fait que.
Le némésis de Patrick Ewing. Hein.
C'est ça. Donc c'est beaucoup plus armé, etc. Donc tout simplement, ça perd. Mais il y a une finale NBA malgré tout. Et c'est Patrick Ewing, c'est une légende. Et puis c'est New York, c'est un visage, c'est le visage de New York en fait.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, Patrick Ewing. C'est juste trop fort. Le niveau est juste impressionnant. La défense de New York, en fait, autour de Patrick Ewing, elle est incroyable. S'il est, s'il est titulaire en 92 au JO, en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que le niveau du mec est juste incroyable. Je voulais rajouter un truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, ouais, c'est en fait, on sait que Pat Riley, quand il est arrivé à New York, bah en fait, il a entraîné les gars dans un camp d'entraînement militaire. Je sais plus comment, ça avait un nom, je sais plus ce que c'est, le camp de Riley ou un truc comme ça. Où en fait, les mecs, Pat Riley, il est poussé à bout jusqu'à ce qu'ils vomissent. Et après, il leur disait, bon, bah maintenant que vous avez vomi, vous continuez encore. Et en fait, Patrick Ewing, il a été le premier à dire, bah en fait, c'est un coach comme ça que je veux. Parce que c'est ça qu'il nous faut pour aller loin.
Claire. Voilà. Vraiment. Petite anecdote bien sympathique.
Ouais. Et puis en plus, donc. Tu dis dans le 5 majeur en 92, en même temps, c'était pas compliqué, il n'y avait pas des grosses pointures.
Non, il n'y avait pas grand monde en vrai en 92, c'est vrai.
Ça va,
l'équipe était creuse. Je pense que j'aurais pu avoir ma place au poste 2, tu vois.
Facile. Pena. Franchement, même sur le poste 5, t'avais qui Robinson, Karl Malone, bah, ça va.
Ah. Oh nom de Dieu. Magnifique. Eh bien, on enchaîne tout de suite du coup sur la deuxième place. Vas-y Rémi, je t'en prie. Tu viens de finir.
Qui a Eh ben moi j'ai Dean Wade, le joueur de Cleveland, Dean Wade, que tout le monde connaît. Non, évidemment, je parle bien de The Flash, de Dwayne Wade, le meilleur joueur de la franchise du Miami Heat, en fait.
Ouais.
On est tous d'accord là-dessus.
Oui.
Il est drafté en 2003, pas trailé par à peu près au même moment, et en fait, il revient un an après en disant « Mais en fait, je veux coacher ce mec-là. Ouais, ça a l'air marrant. Donc, Shaq, tu viens. Dwayne Wade, tu restes. Oh, bah, ça gagne une bague, étonnant. » Bah ouais, mais en fait, c'est pas surprenant, parce que bah, le niveau de Dwayne Wade, même dès qu'il vient d'arriver, est juste trop fort. J'ai noté
ses stats. Sa saison sophomore, c'est un monstre, en fait.
C'est 26 points, 7 rebonds, 5 passes. Pouah. Oh. Alors que le mec, voilà, il est là depuis 3-4 ans en NBA, enfin, ça court partout, c'est trop rapide, ça joue bien avec le Shaq. Ouais. Du coup, bah ouais, Dwayne Wade, clairement, ça rentre. Pas beaucoup de saisons ensemble, mais suffisamment pour qu'il soit le meilleur joueur du Heat. Désolé, Alonzo Mourning.
Moi aussi, je l'ai
en deux. Aussi, Dwayne Wade.
Je l'ai mis en deux.
Oh, Migos, il l'a en un.
Je viens de voir ce sourire. Oh putain, c'est magnifique. Alors,
non, il l'a en deux.
Du coup, est-ce qu'on parle du coup de notre 1 tout de suite et on va confronter les deux?
Vas-y, bah Migos, t'as qui en deux, là, pour être sûr.
Non, je suis avec vous, les gars, vous inquiétez
okay,
pas.
Ok.
Dwayne Wade en deux, vous inquiétez pas.
Donc on est d'accord qu'on a Dwayne Wade en deux et en 1, on a Monsieur Magic Johnson.
C'est ça.
Ah, moi, j'ai pas moi. Hein.
Ah, quoi?
Non, ouais. Évidemment que c'est MG en 1, frérot, bien sûr.
J'ai hésité à dire chaque dans les mentions, mais je me suis dit que j'allais peut-être spoiler quelqu'un.
Bah, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité non plus, parce que ça aurait pas été impossible qu'il soit en 5.
Voilà, juste faut qu'on le cite quand même, parce que chaque, c'est chaque, quoi. Donc,
ça reste une mention.
Que... sur Miami, il reste encore très, très fort.
À Miami, il reste quand même un vrai joueur de basket, en fait. Ça aurait été à bonne
heure. Sur ce genre de débat, ça reste.
Là, voilà. Donc on a D-Wade en 2.
D-Wade en 2, moi, mon argument principal, malgré que je pense que Dwayne Wade, en fait, sur les deux saisons qu'il fait avant le titre, du coup, 2005 et 2005-2006, il est tellement monstrueux. Et les playoffs qu'il fait en 2006, ça a été rarement vu, je pense, surtout dans l'ère moderne, etc. Mais Magic, il y a quand même 4 titres, en fait.
Bah Magic, il en a même 5, mais il y en a un où Pat Riley, il est que assistant.
Oui, voilà, c'est ce que je dis. Donc, t'es obligé, malgré tout, de mettre Magic Johnson devant. Même si,
c'est le showtime. Bon,
il y a 20 points, 11 rebonds, 5 passes de moyenne sous Pat Riley, pardon.
20 points, 11 rebonds, 5 passes ou 5 rebonds, 11 passes plutôt?
Non.
Sous Pat Riley, il est à 20 points.
20 points, 11 passes, 5 rebonds.
Ah, 11 passes, ouais, ok, t'as bien dit.
C'est ce que j'ai dit. Ah pardon, désolé. Mais du coup, Magic, bah c'est le showtime en fait, c'est tout.
Point bah ouais.
Ça s'arrête là.
Le showtime, c'est la rivalité avec Larry Bird.
C'est
la NBA qui revient devant les grands écrans parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est des passes ultra flash.
C'est le meilleur meneur de l'histoire.
Bah oui. Ça dépend à quel point on catégorise des meneurs, vu qu'il y a meneur scoreur, passeur, etc. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire que Magic Johnson est le meilleur meneur. Ouais,
Au final, en fait, quasiment toute sa carrière, il la passe avec Pat Riley, en fait.
Son prime, il le fait avec Pat, en fait. C'est tout.
Il fait quasiment
toute sa carrière. Il part un an une fois que Pat Riley soit parti, quoi.
Ouais, il fait un an. Il fait un an après Pat Riley.
Il va jusqu'en 91, Magic Johnson.
Ouais, il fait un an après Pat Riley, ouais. Et il doit en faire au moins 3 ou 4 avant, je crois.
Non, il arrive en 79 et au même moment que...
Donc il fait 3 saisons au total, je crois, sans Pat Riley sur sa carrière.
Et encore, Pat Riley, il est là, il est juste assistant les deux premières saisons, hein, en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Allez regarder la série Winning Time, hein. Alors c'est romancé, mais encore une fois, on retrouve... dans les grandes lignes, c'est ça.
On apprend pas mal de choses.
Du coup, on voit comment ça se fait, et du coup, tu vois l'arrivée de Magic Johnson et l'arrivée de Pat Riley en tant qu'assistant coach. Quoi. Tout ça, tu as un accident de vélo.
Oh. Magnifique.
Meilleur teaser pour la série.
Mais moi, en parlant juste, parce que du coup, j'en ai pas parlé de D-Wade, moi, mais en fait, D-Wade, moi, en 1, c'est chaud de le mettre en 1, mais en fait, juste le fait, le mec arrive en 2003, en 2006, c'est le patron d'une équipe qui est championne. Et ça, c'est chaud, en fait.
C'est le patron d'une équipe où il y a Shaquille O'Neal.
C'est le patron d'une équipe où il y a Shaquille O'Neal et qui finit champion. Bon, c'est un truc de zinzin, quand même. Parce que au final, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés dans la ligue. 3 ans plus tard, ils sont champions en étant le joueur, la superstar de la team, en fait. Parce que forcément, hein, t'en as des Patrick McCo, hein, il est arrivé, le mec, il a gagné 3 titres d'entrée. Mais par contre, il jouait pas une seule minute, tu vois. Là, ouais. Louane Wade, il est arrivé, il a dit, moi, je suis le patron, tu vois. C'est moi le patron, moi, je vais faire gagner mon équipe.
Et ça, Pat Riley, il a dit, je veux revenir coacher parce qu'il y a ce mec-là.
Parce que Louane Wade, en fait, il est cool à coacher. Ah, en fait, on lui donne la balle et puis il va chier sur les Mavs.
Dirk, il a chier sur tout le monde. Hein.
Dirk, t'es bien gentil, mais en fait, Wade, je suis un peu meilleur que toi.
Moi, j'avoue que pendant un moment, j'avais Patrick Ewing qui était en 2 et j'avais Dwayne Wade en 3. J'ai hésité parce qu'en vrai, le niveau de Patrick Ewing est tel aussi qu'en fait, intrinsèquement, je pense que ça peut se discuter. Mais il y a la bague côté Dwayne Wade. Il est le meilleur joueur de sa franchise. Patrick Ewing aussi, hein, mais il y a plus d'années ensemble, il y a la bague. Donc pour moi, c'est...
Il y a l'aspect aussi visuel du fait que Wade, en 3 saisons, c'est devenu le patron de la ligue, en fait.
De la ligue.
Ouverture de la saison 2006-2007. Tout le monde parle de Wade.
Parce que ça vient de gagner la bague.
En fait, s'il confirme, le mec est juste un monstre, en fait. Et puis, c'est le retour des postes 2 un peu dominants. Alors que, bah oui, avant, enfin, début 2000, c'est plus le poste 4-5, quoi.
Ouais.
Donc,
le poste 2 dominant, il y en a un qui a dominé pendant toutes les années 90 et pendant les années 2000, avant Wade, il y en avait un du nom de Bryant, je sais pas si tu connais.
Oui, mais...
Il a dominé un petit peu aussi, hein.
Oui, mais je veux dire, il était derrière Shaq et depuis, il a pas gagné encore à ce moment-là. Il gagne qu'à partir de 2008.
Ça, oui. Ça, c'est vrai.
C'est dans ce sens-là que je le dis.
Alors, donc, juste, Pat Ewing a dominé, certes, mais il y avait quand même Hakeem Olajuwon qui a vraiment plus dominé que lui. Hein.
Ah, bah, il était meilleur, ça, je suis d'accord. Il a été meilleur à NCAA, il a été meilleur en finale NBA.
Il lui a fait chier toute sa carrière, en fait.
Ouais, je crois qu'il lui en veut.
C'est pour ça que je le mets 5. Hein,
ouais. Enfin, le niveau de Patrick Ewing, il est quand même loin d'être. C'est 5 Patrick Ewing, pour moi, c'est un blasphème.
Il n'y a que du blasphème.
Ça dit les choses, ça dit les choses ici.
Ça dit les choses, ça dit les termes.
Du coup, moi, j'enchaîne aussi parce que donc, j'ai comme vous. Moi, je mets Magic Johnson 1, en fait, tout simplement, pour son palmarès. Moi, en fait, quand on a dit on faisait pas trailer, j'avais déjà mes 2 premiers et dans l'ordre parce que c'était impossible de les changer entre eux. Et pour moi, c'était vraiment ces deux-là qui me sont venus à l'esprit. Et je suis comme moi, David, tu n'as pas besoin de justification, les gars. Là, Magic Johnson 1. Dwayne Wade 2.
Avec le palmarès, c'est quoi? Il y a 3 MVP Magic Johnson? 4
bagues? 3 MVP, ouais. 5 bagues.
Il est MVP des finales en 90. En 80, excusez-moi. Mais il est aussi MVP des finales en 88. En 87. Magnifique. Et en 85, j'ai un doute. C'est pas Karim Abdul-Jabbar en 85?
Si, je crois que c'est Cage. Attends, je vais vérifier. Non, il y a un MVP des finales qui est à. Comment il s'appelle?
James Ornzi, il en prend.
Je crois ouais, James Ornzi, en ce moment. Bah, il prend celui de 87, j'imagine, avec le mid-game.
Ouais, il l'a...
J'ai plus les dates exactes, mais Magic Johnson, c'est 3 MVP et 3 MVP des finales, quoi. Scoop à trailer, je veux dire.
Dans sa carrière, c'est 3 MVP.
Peut-être 3, que 2. Ouais, dans ce cas, il n'y en a que 2 Scoop à trailer. Ok, my bad.
Mais bon, ouais, c'est monstrueux, tout simplement. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les gars, sur ce coach des Mall, pas trailer?
Donnez-nous votre classement, les gars. Envoyez-nous en commentaire par message où est-ce que vous avez placé Patrick Ewing? Où est-ce que vous avez mis Dwayne Wade?
Où avez-vous mis Alonzo Mourning et Tim Hardaway?
Est-ce que vous avez fait rentrer Shaq? En vrai, Shaq en 5, je peux l'entendre.
Non.
Je peux l'entendre.
Et sur ce, nous allons clôturer l'émission. C'est ainsi que se termine cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Allez écouter aussi les autres podcasts de notre label, à savoir Culturims, BPcast et l'actu dans le bas U. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Salut tout le monde.